Votre revue de presse décalée sur Europe 1, c'est maintenant. Voici le pressing. Bonjour mon cher Dimitri Vernet.
Bonjour Lionel, bonjour Ombline, bonjour à tous.
Bonjour. Vous nous parlez de quoi ce matin ?
Alors que les chrétiens s'apprêtent à fêter la résurrection du Christ, je vous propose de revenir ce matin sur l'éternel mystère du suaire de Turin.
Ombline.
Ne jetez plus les solutions pour réduire drastiquement le gaspillage alimentaire.
Alors moi de mon côté, je vais vous parler des dispositions qui sont prises depuis quelques jours seulement par les clubs de football féminin, les clubs professionnels, pour permettre aux joueuses de donner naissance à un enfant durant même leur carrière professionnelle.
Leur carrière, d'accord.
Dimitri, donc c'est la une de Paris Match que vous avez sélectionnée ce matin.
Oui, avec en une cette photo, aussi fascinante que mystérieuse, un cliché noir et blanc, laissant apparaître les traits du visage du Christ. Alors, je ne dis pas ça au hasard, puisque cette photo datant de 1898 est la version négative d'un cliché du linceul du Christ exposé à Turin. Photo historique, puisque vous en doutez bien, à l'époque, en 1898, ce cliché était donc une preuve irréfutable pour les fidèles. Pour eux, cette photo prouvait que bien le linceul était le vrai, qu'il était bien celui ayant enveloppé le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion. Les chercheurs, de leur côté, se sont donc mis à étudier ce fameux linceul afin de tirer une conclusion officielle, scientifique, on va dire.
Et pourtant, aujourd'hui, le mystère, Dimitri, reste entier.
Oui, car les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, même si en 1988, une étude au carbone 14 pensait avoir clos le débat, datant le linceul entre les années 1260-1390. La conclusion, c'était donc une réplique. Et bien, depuis, de nombreuses contre-études sont venues semer le doute. En 2005, tout d'abord, un chimiste américain, Raymond Rogers, a démontré que cette analyse au carbone 14 bien, présentait de nombreuses anomalies. Et surtout en 2022, une nouvelle datation a été effectuée grâce à une nouvelle technique au rayon X, ayant pour conclusion que ce linceul datait du 1er siècle de notre ère. Voilà donc, plus de 100 ans que les scientifiques polémiques sur la question n'arrivent pas à trancher. Alors de son côté, l'Église reste prudente, ne se prononce pas. Mystère donc, Saint-Suaire, l'éternel mystère. C'est un article à retrouver dans Paris Match ce matin.
Alors moi, je vais vous parler football, tiens. Mais chez les femmes, le Parisien revient ce matin sur cette recommandation patronale qui va obliger les clubs professionnels de football féminin donc à garantir la couverture financière des joueuses françaises et européennes qui souhaitent donner naissance à un enfant durant leur carrière.
Et cette protection, ça veut dire, Lionel, qu'elle n'existait pas?
Non, il n'y avait rien.
Ah oui,
c'est une nouvelle protection qui est apportée aux joueuses professionnelles. Sabrina Delannoy, la directrice sportive adjointe du Paris Saint-Germain, réagit donc ce matin dans les colonnes du Parisien à cette avancée et elle s'en réjouit, évidemment. C'est un symbole fort, dit-elle, qui donne de nouveaux droits aux joueuses. Pouvoir avoir un enfant pendant sa carrière de joueuse professionnelle, eh bien, ça se normalise et c'est précieux d'avoir le choix. La maternité d'une joueuse professionnelle de football ne doit plus être une sorte de sujet tabou.
Oui, tabou.
C'est aussi un type de mesure qui va permettre au championnat français d'être plus attractif pour les joueuses professionnelles étrangères. Et avec l'esprit plus tranquille sur cet aspect-là, eh bien, les joueuses vont pouvoir se focaliser sur la performance et elles se sentiront protégées. C'est une protection qui s'inscrit au Paris Saint-Germain, il faut le dire, dans le cadre d'une prise en charge globale des jeunes fille dès le centre de formation.
Oui.
Vous savez, quand ces jeunes joueuses, âgées de 14 ans, elles quittent le cocon familial, voilà, dans un moment qui peut être pas forcément très simple, en tout cas un moment clé de leur adolescence, eh bien, justement, il y a un projet sportif global, explique encore Sabrina Delannoy, un projet scolaire, un volet citoyenneté qui englobe le passage de l'adolescence à la jeune femme. À lire donc ce matin dans Le Parisien.
Donc des crèches bientôt, peut-être, dans des centres de formation.
Mais pourquoi pas, comme ça se fait aussi au niveau de l'équipe de France de football féminine,
vrai,
où les joueuses ont la possibilité, quand elles sont à Clairefontaine, de venir avec leur petit bébé. Alors, il y a eu un ou deux cas seulement, mais effectivement,
ça progresse. Voilà.
Sacré avancée.
Combline.
Oui, Libération consacre sa une et un large dossier sur le gaspillage alimentaire. D'après un rapport de l'ONU, un milliard de repas ont été jetés chaque jour en 2022. Chaque jour, un gâchis, dans le monde bien sûr, un gâchis qui entraîne des conséquences dévastatrices, toujours selon le rapport des Nations Unies, car cette perte gigantesque est responsable de 8 à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est 5 fois plus que celle du secteur aérien, précise le quotidien. Alors, pour qu'on se rende bien compte, figurez-vous que chaque Français a gâché 61 kilos d'alimentation en 2022.
Bon, après le constat, quelles sont les solutions ?
Alors, comme toujours, Dimitri, les quelques gestes simples quotidiens sont les plus efficaces. Libération prend l'exemple du Royaume-Uni, le bon élève de la lutte anti-gaspi, puisque entre 2007 et 2018, la quantité moyenne de déchets alimentaires produits par les Britanniques a diminué de 23%.
C'est
quand même
pas mal, hein.
Assez notable en moins un peu plus de 10 ans. Alors, ce qui fonctionne, les campagnes de sensibilisation qui insistent, par exemple, sur le coût du gaspillage. Une pub diffusée l'an dernier annonçait 70 euros de pertes par mois lorsqu'on gaspille notre nourriture. Un autre message incitait les Anglais à congeler leur pain. Eh bien, c'est très efficace. 20 millions de tranches ont été ainsi sauvées chaque jour. Enfin, une nouvelle politique d'étiquetage. Il est désormais noté « best before » sur les aliments, « meilleur avant » pour éviter de jeter à tort des fruits et des légumes frais.
Alors, vous dites, Ombline, que quelques gestes simples sont efficaces, finalement, pour lutter contre le gaspillage. Quelques exemples.
Alors oui, par exemple, Libération propose justement un tuto anti-gaspi. C'est du bon sens, hein, des règles que nous connaissons tous, mais c'est toujours bon de les rappeler. Si la viande doit être consommée avant la date limite, les yaourts et les fromages blancs sont comestibles 3 semaines après cette date. On le sait, mais on jette quand même.
Mais on jette quand même, c'est vrai.
Ah non, moi je ne jette pas.
Ah, ce serait bien.
Bon élève.
Fiez-vous à l'odeur. Eh ben oui, c'est le meilleur indicateur, forcément. Alors justement, le fromage, quand il a dépassé un petit peu, et ça sent un petit peu plus le roquefort.
C'est vrai.
C'est un peu plus embêtant. Bon. Avec du pain dur, vous faites des croûtons, vous épaississez une soupe cuisinée avec des légumes moches, donc des légumes que vous n'avez pas jetés. Vous transformez les légumes oubliés au fond du frigo en pickles, et puis les restes de fromage finissent dans une tarte. Voilà, il y a plein d'exemples donnés par Libération aujourd'hui, un large dossier anti-gaspi.
Vous donnez faim,
et c'est aussi, très bien. Et c'est aussi la une du quotidien Libé aujourd'hui.
Moi, j'aime bien tous ces trucs de récupération.
C'est chouette.
Je vais aller
c'est
voir
souvent
ça.
Très bon en plus.
Je vais aller voir ça de plus près.
Tarte avec du fromage, ça doit être sympa.
Merci Ombline, merci Dimitri. À demain. La revue de presse décalée chaque matin sur Europe.